100% raisin, des mots en bouteille. Épisode 8, le fond et la forme. On dit que je suis maniaque, absolument pas. Je suis exigeante, c'est tout. Un peu rigide, certes, mais à peine. Et puis pourquoi me contenterais-je de la médiocrité quand on peut avoir le meilleur ? J'ai pour habitude, chaque fois que je vais dîner chez mes amis, de venir avec des bouteilles pour leur faire découvrir des vins qu'ils ne connaissent pas et que j'apprécie. J'insiste toujours aussi pour apporter mes verres. J'arrive donc bardé d'un carton de 6 ridelles et de 3 ou 4 vins. J'ai prévu large, on ne sait jamais, au cas où il y aurait un bouchon. En matière de verrerie, j'accorde peu de confiance à mon entourage. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs, parmi les critiques de vin, à chipoter sur la vaisselle. J'en connais qui ont une mallette de verre qu'ils trimballent à travers tout le vignoble. Je n'en suis pas encore là. Je suis bien tentée quand même. Toujours est-il que je crains par-dessus tout la verrerie bon marché, glanée dans quelques rayons d'un hangar suédois jaune et bleu, entre une pile d'assiettes au nom imprononçable et des étagères Billy. Summum de la modernité qui concentre ainsi, en un seul espace, tout l'attirail d'une maison bien rangée. Désolation d'uniformité, selon moi. Pour en revenir aux verres, ils sont la clé de la dégustation. Pas de bon vin sans bon verre, pas de grande bouteille sans contenant adapté. Ce n'est pas un snobisme. C'est le principe même de l'adéquation du fond et de la forme, la rencontre de deux matières qui s'intègrent parfaitement. Faites l'expérience vous-même. Prenez un vin que vous aimez, que vous connaissez, et servez-le dans trois types de verres différents. Un verre à moutarde d'abord, vous savez, ceux avec l'âge marqué au fond. Un verre ballon de piètre facture ensuite, aux bords épais. Et puis un verre de dégustation homologué. Vous observerez la chose suivante. Plus le verre est grossier, moins le vin semble raffiné. L'expérience a été testée à maintes reprises, elle est aussi vérifiable pour les assiettes. Goûtez donc le même plat dans une assiette en carton, une en plastique et une en porcelaine de Limoges. Le verre est un médium, la courroie de transmission de notre goût et de nos sensations. Puisque l'on ressent avec tous nos sens, le premier étant la vue, avoir un beau verre est un préambule nécessaire. Ensuite, les biais cognitifs étant nombreux et inattendus, l'esthétique influe sur notre cerveau, et voir un beau verre rend inconsciemment le contenu un peu meilleur. Des expériences de grands crus en trétrapac et inversement de villageoises en carafe en cristal ont pointé les limites de notre magnifique objectivité et de notre légendaire capacité de discernement. Toujours est-il que je persiste à croire, en dehors de ces limites neuronales indépendantes de notre volonté, qu'une verrerie de bonne facture est un plaisir nécessaire, et qu'investir dans 12 à 24 verres, selon que vous êtes plus ou moins sociable, n'est pas superflu du tout. Le plus fanatique en la matière est sans conteste Georg Riedel, à la tête de la société éponyme basée en Autriche et leader mondial du verre à dégustation. Ce fou de vin a passé sa vie entière à créer une gamme infinie de verres à vin et à champagne, de toutes les tailles, de toutes les formes et les couleurs même, assorti de lignes de carafe absolument uniques au design futuriste. Je me suis rendu dans sa maison personnelle en 2009 pour un article que je devais rédiger. Dans le Tyrol autrichien, à 2 heures de Munich, Kufstein est une petite bourgade qui figure surtout dans les guides de voyage pour son orgue, le plus grand au monde. Elle est pourtant célèbre aux yeux des amateurs de vin pour abriter l'une des sociétés les plus florissantes en termes d'œnologie, Riedel Glass. La maison Riedel fabrique des articles en verre depuis 1756. C'est l'une des plus anciennes fabriques de Bohême. La même famille s'est transmise son savoir au fil des 11 générations, et depuis 2013, c'est le fils de Georg, Maximilian, qui veille aux destinées de cet empire discret. C'est en 1956, avec l'aide de la famille Swarovski, que la famille Riedel s'est établie à Kufstein, rachetant une verrerie et commençant à produire des produits soufflés à la bouche. C'est le père de Georg, Klaus Riedel, qui, dans les années 60, eut le premier l'intuition géniale d'adapter le verre au type de vin et de dessiner une collection de verres à dégustation, reconnaissant l'effet de leur forme et l'influence que cela avait sur la perception organoleptique. Le verre à dégustation était né. Travaillant en étroite collaboration avec son père, Georg Riedel développa par la suite des collections de verres adaptées à chaque cépage, soufflées bouche ou mécanique, en verre ou en cristal, avec une grâce, un sens de l'esthétique et du commerce assez fascinant. Ce soir-là, nous étions reçus dans sa demeure, une sorte de repère à la James Bond totalement hallucinant. Il avait fait construire sa maison au-dessus de la cave, c'est-à-dire qu'il avait d'abord établi les plans de la cave, l'endroit le plus important et le plus stratégique à ses yeux, avant de l'agrémenter d'un lieu de vie. Nous dînions donc dans une immense salle à manger au plafond à hauteur de cathédrale, juste au-dessus de la fameuse cave que nous devinions par la transparence des dalles du sol. Nécessairement, le sujet de conversation porta sur les atouts de la verrerie. « En aucun cas, m'expliquait Georg Riedel, le verre ne va modifier la composition intrinsèque du vin. Mais il modifie de façon significative la perception olfactive et gustative du vin. Certains éléments aromatiques peuvent aussi être altérés par la forme du calice, son ouverture. Si l'on prend l'exemple du chardonnay, ce cépage blanc à l'alcool bien présent et à l'acidité basse, il a besoin d'un verre qui mette en valeur ses arômes et rééquilibre justement ce manque d'acidité. J'objectais que posséder un verre par cépage risquait de représenter un petit budget tout de même, sans compter le manque de place. Il me répondit, malicieux, « Mais non, il suffit d'avoir un seul verre. Un seul verre par vin. » En réalité, je n'ai pas un verre par cépage ou par type de vin, parce que cela est inutile et que mes placards débordent déjà de cartons de verre de toute taille, poussant hors les murs les boîtes de petits pois qu'il faut toujours avoir, bien évidemment, chez soi. Je possède donc des Riesling Zinfandel de la gamme Veritas, qui sont initialement des verres à vin blanc, soufflés mécaniques, les soufflets bouche coûtent un bras, et que j'utilise régulièrement pour à peu près tout, champagne compris. J'ai également 6 grands Riedel à pied coloré rapportés directement de l'usine de Kufstein, d'un design assez baroque et que je sors peu, à cause de leur fragilité, une douzaine de Zalto Universel, une autre marque autrichienne et concurrente, prisée pour la finesse et la légèreté de ses verres, essayez, c'est impressionnant. Et puis j'ai encore quelques verres de bonne tenue pour le quotidien que je casse régulièrement à chaque pique-nique ou soirée barbecue, parce que là encore, même avec des serviettes en papier, je ne me déplace jamais sans mes verres. Il n'y a rien de plus effroyable et de plus énervant selon moi que de devoir boire un bon vin, un vin que l'on aime, que l'on a attendu et espéré, dans un banal verre qui va l'anéantir. Je fais ici un point sur le champagne, nécessaire, et j'attends votre entière attention afin de couper court au débat stérile que l'on voit refleurir chaque année, à peu près au même moment que les reportages sur la neige en hiver. Coupe ou flûte ? Arrêtez avec ça. Ni l'un ni l'autre. Un beau verre à vin aux parois fines, pas trop large, pas trop étroit, pour laisser la bulle vivre librement. La coupe la massacre. Évasée, elle laisse s'échapper les bulles trop rapidement et dilue les arômes. La surface d'échange avec l'air étant plus grande, il se volatilise dans l'atmosphère. De plus, le gaz s'échappe et on perd en bulles. D'un million de bulles présentes dans un verre de champagne, on tombe à 300 000 environ avec une coupe. Quant à la flûte, étroite, elle concentre le CO2 qui devient agressif pour les muqueuses et anesthésie le vin. En cela, le fameux Georg n'avait pas tort. Il faut d'abord choisir ses verres en fonction de ses goûts, du type de vin que l'on boit le plus couramment. Et recommandait ainsi de boire le champagne dans le verre à pinot, selon lui le meilleur, surtout si c'est un vieux millésime car cela va l'épanouir. Une fois choisis les bons outils, on peut se mettre au travail et commencer à savourer. Ah non, encore une chose que je ne vous ai pas expliquée, la température de service. Là encore, arrêtez le massacre. Ne chambrez plus vos vins au chauffage central, soit 25 degrés l'hiver dans un appartement parisien quand la vieille du dessus est en mode décongélation. Pour les rouges, il faut viser 13-14 degrés pour les vins légers de type Gamay, que l'on boit jeune, et 16-17 degrés pour les Bordeaux et les vins tanniques. Dites-vous ceci, la température dans le verre augmente d'un degré environ tous les quarts d'heure, donc à moins de siffler son verre d'une traite, il aura le temps de se réchauffer lentement et de s'ouvrir. Pour les blancs, évitez les glacés, visez entre 7-8 degrés et 13-14 degrés maximum pour les grands bourgognes d'un peu d'âge ou les vieux champagnes. J'ai eu une fois une expérience assez désagréable pour une dégustation professionnelle que je devais faire pour un guide des vins. J'avais prévu la journée de dégustation. Nous étions en avril dans le sud-ouest de la France, sur les bords de la Dordogne, et le soleil commençait à taper fort. J'eus la mauvaise surprise de découvrir des blancs glacés, à environ 5 degrés sortis du frigo, et des rouges à température ambiante, ce qui signifiait un bon 25 degrés. Impossible de déguster quoi que ce soit, impossible de décaler la journée, impossible d'attendre des heures la remise en température. Impossible tout court. C'était prévu, je ne décale rien, ce n'est pas mon problème. Cela dit, ça l'est vite devenu. Coup de fil en panique à un collègue et ami qui avait essuyé les plâtres de cette organisation approximative avant moi. Là, t'as pas le choix. Tu sors les blancs pour qu'ils remontent. Pendant ce temps, tu goûtes les rouges sans prendre de notes. C'est oui, non, selon la première impression, le tactile, la finale, et c'est tout. Tout ce qui te semble bien, tu les sors, tu notes et tu regoutteras chez le vigneron. Ensuite, tu goûtes les blancs qui se sont réchauffés. Pas d'autre choix possible. Je m'exécute. Une centaine de rouges un peu chauds, des tanins sortis comme des griffes, et du bois façon forêt de Rambouillet. Bref, je goûtais rapidement, mettant en avant les bouteilles qui me semblaient les meilleures. Finalement, le résultat fut assez probant. En levant l'anonymat, je découvris le verdict et j'étais assez rassuré de constater que j'avais sorti les meilleurs de l'appellation. J'en fus bonne pour les goûter à nouveau dans les domaines, pour conforter à la fraîche ses premières impressions. Ainsi donc, surveiller la température, c'est un point crucial. Une fois que l'on a les bons verres, les vins servis dans des conditions optimales, que l'on a proprement ouvert les bouteilles, je rappelle que c'est la bouteille de champagne que l'on tourne et non le bouchon, que l'on tient fermement si vous ne voulez pas terminer aux urgences. Une fois donc tous ces éléments mis en place, il ne reste qu'à apprécier. Et à ce moment-là, forcément, vous vous poserez la question suivante. L'ai-je ouverte au bon moment ? Le pire moment, c'est quand c'est trop tard, on ne formule alors que des regrets. Le moins pire des moments, c'est quand c'est trop tôt, il reste encore l'espérance d'une prochaine bouteille. Le bon moment, c'est quand on est bien entouré, avec les gens qu'on aime, et que tout le monde est content. Le meilleur vin est celui de la situation, de la bonne situation, celle où tout s'aligne parce que rien ne manque, rien n'est superflu. Certains s'évertuent à prédire l'avenir, à vous expliquer, intelligence artificielle à l'appui, le moment opportun pour déguster votre vin. C'est bien un artifice, selon moi. Est-ce qu'il faut des robots pour nous dire quand boire, que choisir, quoi acheter, à quel prix ? Si l'on faisait confiance déjà à l'intelligence humaine, on aurait fait de grands progrès. Ainsi donc, je me méfie des astro-œnologues qui me dictent ce que je dois faire, penser, ce que je dois ressentir. Ah oui, tiens, groseille, c'est marqué sur l'étiquette. Rien n'est écrit, tout vous appartient. Le bon moment dans la vie est celui qui arrive parce qu'il doit arriver. Si j'ai envie de boire du Félan Ségur 2016 aujourd'hui, oui, c'est beaucoup trop tôt, je sais, mais là, ça me fait plaisir, tu comprends ? Alors laisse-moi tranquille. Et qui sait si dans 10 ans, dans 20 ans, lorsqu'il arrivera à maturité, j'aurai la même disposition d'esprit, si les sensations seront les mêmes et si justement l'envie que je ressentais, l'atmosphère et mon état d'esprit seront les mêmes. Bien sûr que non. Ce sera un autre vin, un autre bon moment peut-être. Il ne faut pas déléguer son bonheur ni le remettre au lendemain. Depuis 20 siècles, Horace s'époumonne. L'entendez-vous ? Ne cherche pas à connaître, il est défendu de le savoir, quelle destinée nous ont faite les dieux, à toi et à moi, ô le Conoé, et n'interroge pas les nombres babyloniens. Combien le mieux est de se résigner, quoi qu'il arrive. Que Jupiter t'accorde plusieurs hivers, ou que celui-ci soit le dernier, qui heurte maintenant la mer tyrrhénienne contre les rochers immuables, sois sage, filtre tes vins, et mesure tes longues espérances à la brièveté de la vie. Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille le jour et ne crois pas au lendemain.